On va lire, donc c'est page 2. Un exemple de la tradition, c'est l'église de Rome. Fondée sur la succession apostolique. Alors voilà ce qu'il dit. Ainsi donc, la tradition des apôtres, qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute église qu'elle peut être vue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est public. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Mais comme il serait trop long, dans un ouvrage tel que celui-ci, d'énumérer les successions de toutes les églises, dommage, on aurait bien aimé savoir, enfin peut-être aussi qu'il s'avance un peu, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Donc vous voyez, l'excellence de l'Église de Rome, garante de la vérité de toutes les églises qui ont aussi leur succession apostolique, parce qu'elles ont été fondées par les deux colonnes, Pierre et Paul, enfin fondées ou illustrées.
C'est le début de la primauté de Pierre.
Oui, oui, c'est clair, d'autant plus que c'est un Asiate, hein, et que par exemple sur la question de la date de Pâques, ils ne sont pas de la même idée. Alors, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. C'est de cela que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. Anaclet lui succède. Après lui, en troisième lieu, après les apôtres, l'épiscopat échoue à Clément. Donc c'est notre Clément, Clemens Romanus. Okay. Hein, voilà où j'en suis. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leur tradition était encore devant ses yeux. Ça, c'est très beau, hein ?
Oui.
Il n'était d'ailleurs pas le seul, car il restait encore à cette époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Donc Clément, c'est la dernière décennie du 1er siècle. Sous ce Clément, donc, un grave dissentiment se produisit chez les frères de Corinthe. L'Église de Rome adressa alors aux Corinthiens une lettre très importante. C'est la Prima Clementis. Elle les pressait de faire la paix et renouvelait chez eux, j'imagine, la foi ainsi que la tradition qu'elle avait naguère reçue des apôtres. À ce Clément succède Évariste. À Évariste, Alexandre, puis le sixième après les apôtres, Sixte, est établi. Après lui, Télesphore, qui rendit glorieusement témoignage. Ensuite, Hygin. Ensuite, Pi. Alors, Pi, qui est le frère de qui déjà ? De Hermas. Souvenez le pasteur d'Hermas. Voilà. Après lui, Anicet. Sauter ayant succédé à Anicet, c'est maintenant Éleuther, qui en douzième lieu après les apôtres, détient la fonction de l'épiscopat. Voilà par quelle suite et quelle succession, la tradition se trouvant dans l'Église à partir des apôtres et la prédication de la vérité, sont parvenues jusqu'à nous. Et c'est là une preuve très complète qu'elle est une et identique à elle-même, cette foi vivante qui, dans l'Église, depuis les apôtres jusqu'à maintenant, s'est conservée et transmise dans la vérité. Donc vous voyez, c'est la tradition est fondée sur la succession apostolique. Et sur l'unité, l'union de toutes les églises apostoliques avec l'église de Rome, qui est garante de cette tradition. Alors, Irénée, justement, insiste sur l'unité. c'est un thème qui revient continuellement dans son Adversus Cereses. Par exemple, l'unité du Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et donc la possibilité donnée au Dieu transcendant de se révéler, hein, parce que le Dieu de Marcion, lui, restait extrêmement lointain. L'unité des deux Adams, le premier Adam et le dernier Adam, hein, que souligne saint Paul aux Romains, le second récapitulant même toute la création dans la doctrine de l'Épître aux Colossiens, Éphésiens, etc. L'unité de la nature humaine, hein, c'est lui qui dira « Si la chair n'est pas sauvée, c'est que le Seigneur ne nous a pas rachetés. » Donc, on est unité d'esprit et de corps. Voilà. Unité des deux testaments, l'un menant pédagogiquement à l'autre, enfin, menant pédagogiquement l'humanité, mais aussi chaque chrétien. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'anti-martionnisme de Irénée, c'est pas simplement « il faut garder l'Ancien Testament parce que les Juifs en ont besoin pour comprendre que c'est bien la... » faut qu'ils changent de religion et qu'ils passent au christianisme, mais c'est que nous-mêmes aussi, nous avons à faire le chemin en passant du paganisme à la première alliance, puis de la première alliance à la seconde. C'est-à-dire que à l'intérieur de notre christianisme, le judaïsme a un rôle à assurer dans notre... D'abord parce qu'il nous assure que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et le Messie, et donc sinon comment le saurait-on ? Donc on a besoin de passer aussi, de faire cette vérification par nous-mêmes. Voilà. Et puis l'unité des églises avec celle de Rome, c'est ce qu'on vient d'entendre, car c'est avec cette église, en raison de sa plus puissante autorité de fondation, que doit nécessairement s'accorder toute église, c'est-à-dire les fidèles qui proviennent de partout, elle en qui toujours, par ceux qui proviennent de partout, a été conservée la tradition qui provient des apôtres. Il est aussi le théologien de l'admirable échange. Donc, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Hein, c'est ce qu'il dit au troisième livre, chapitre 16, verset 3. Donc vous voyez, Irénée, c'est vraiment un théologien important. Alors on va lire quelques passages encore de lui. Donc l'unité de toutes les églises. Page 1 dans le premier livre. Voilà. L'Église qui est répandue par toute la terre et jusqu'aux extrémités du monde a reçu des apôtres et des disciples la foi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, en un seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné pour notre salut, et en l'Esprit Saint qui a enseigné par les prophètes les desseins de Dieu, la venue de notre bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur, sa naissance d'une vierge, sa passion et sa résurrection d'entre les morts, son ascension corporelle dans les cieux, sa venue dans la gloire du Père pour récapituler toutes choses et ressusciter toute chair du genre humain, afin que devant le Christ Jésus notre Seigneur, Dieu Sauveur et Roi, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue le confesse, et qu'il exerce sur tous son juste jugement. Donc là, vous avez la règle de foi.
Oui. Hein,
la règle de foi, trinitairement fondée, hein, et issue probablement du rituel du baptême. Et avec vous voyez la prégnance de la pensée de saint Paul dans l'idée de récapituler toute chose. Hein, on insiste beaucoup pour Irénée, l'anakephalosis, donc le fait de récapituler toute chose. Eh bien, c'est dans saint Paul en fait. Hein, vous trouvez ça dans les épîtres Colossiens, etc. Mais donc, vous voyez que Irénée est très, très, très paulinien. Alors, cette prédication qu'elle a reçue et cette foi que nous avons exposée, l'Église, tout en restant répandue dans le monde entier, la garde scrupuleusement, comme si elle vivait en une demeure unique. Et pareillement, elle croit en tous ses articles comme si elle avait une seule âme et un seul cœur. hein, citation des Actes. Elle l'annonce de manière cohérente, l'enseigne et la transmet comme si elle n'avait qu'une seule bouche. Même si dans le monde les dialectes diffèrent, la vertu de la tradition n'en est pas moins une et identique. Ni les églises qui ont été fondées en Germanie ou en Espagne ou chez les Celtes, ni celles d'Orient, d'Égypte ou en Libye, ni celles qui sont au centre du monde, Jérusalem, ne diffèrent quant à la foi ou à la tradition. Mais ainsi que le soleil créé par Dieu est unique et le même dans le monde entier, la prédication de la vérité resplendit partout et elle illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà, c'est bien dit, hein ?
Oui.
Ouais. Oui, oui, c'est... Alors, oui. Ah oui, oui, tout était en grec, oui. Oui. C'était l'anglais de l'époque. Hein.
Les Celtes, c'est ceux de Gaule ?
Oui.
D'Allemagne ?
Oui, 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 ce sont les Celtes, pas encore des îles. Hein.
Non.
Bah, il devait y avoir déjà des chrétiens à Londres, hein, mais...
Oui, peut-être.
Ah oui, avec les commerçants, hein.
Oui.
Les marins, les navigateurs. Alors, on va passer à... Donc, aux autres personnes de la Trinité. Alors, vous voyez qu'on est... faudra attendre le 4e siècle pour que la divinité du Christ et du Saint-Esprit soit vraiment défendue et contre les opinions contraires. Bon, c'est évident que dès le 1er siècle, c'était confessé aussi. Mais là, on voit avec Irénée déjà une réflexion sur... sur cela. Alors, on va commencer par la médiation du Verbe. Alors, il dit « La splendeur de Dieu est vivifiante. Ils auront donc part à la vie ceux qui voient Dieu. Voilà pourquoi celui qui est insaisissable, incompréhensible et invisible s'offre à être vu, compris et saisi par les hommes. » C'est afin de vivifier ceux qui le saisissent et qui le voient. Car il est impossible de vivre sans la vie. Il n'y a de vie que dans la participation à Dieu. Et cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. Alors là, vous avez un texte très intéressant. Parce qu'on est dans la logique toujours platonicienne de la participation. Sauf que on est ici, Irénée... parle pas simplement de participer au bon, au vrai, au beau, à l'être, mais la participation à la vie. Vous voyez comment il interprète de manière chrétienne les vérités platoniciennes. Et donc, pour avoir part à la vie, il faut voir Dieu. Or, Dieu est invisible, donc il faut que Dieu se montre. Et vous voyez la réfutation déjà de la dualité de Dieu des gnostiques. Qui ont un Dieu transcendant qu'on ne peut pas connaître et qui est la vie en soi, mais à ce moment-là, si on ne peut pas le connaître, on ne peut pas participer à lui, et donc du coup, ça ne nous sert à rien qu'il soit la vie, puisque nous, on ne l'a pas. Alors, il continue. « Ainsi donc, les hommes verront Dieu afin de vivre. Ils deviendront immortels par cette vue et ils atteindront Dieu. Je l'ai déjà dit, cela a été annoncé de manière figurative par les prophètes, à savoir que Dieu serait vu par les hommes qui portent son esprit et qui attendent sans cesse sa venue. Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable quant à sa puissance et à sa grandeur pour tous les êtres créés par lui. Toutefois, il ne leur est pas inconnu pour autant, car tous apprennent par son verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père, qui contient toutes choses, et donne l'existence à toutes, comme il est écrit dans l'Évangile, « Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. » Donc voilà, le Fils incarné, révélateur du Père. Il fait connaître le Dieu invisible. « Depuis le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est, depuis le commencement, auprès du Père. Les visions prophétiques, la diversité des charismes, ses ministères et la glorification du Père, tout cela, il l'a déroulé devant les hommes au moment favorable, pour leur avantage, comme on fait entendre une mélodie agréable et bien composée. C'est pourquoi le Verbe s'est fait le dispensateur de la grâce auprès des hommes, pour lesquels il a accompli de si belles dispensations. » Alors, dispensation, c'est le terme qui donne testament chez nous. Hein. Dispensateur. Oui. c'est, je cherche le mot grec, là, il m'a échappé, diathésis. Il montre Dieu aux hommes et il présente l'homme à Dieu. Il sauvegarde l'invisibilité du Père pour que l'homme n'en vienne pas à mépriser Dieu, mais en même temps, il rend Dieu visible aux hommes en le montrant par de multiples dispensations, parce que, totalement privé de Dieu, l'homme en perdrait jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est la phrase qu'on cite toujours. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien davantage la manifestation du Verbe par le Père donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? Vous voyez, tout est articulé dans cette, cette pensée. Hein. Donc, là, le lien, enfin, donc, le Fils comme révélateur du Père et qui, par son incarnation, va attirer les hommes vers l'invisibilité du Père, c'est exactement le mouvement qui est repris dans la préface de Noël. Vous savez, la préface de la Nativité. Pour que nous parvenions à la connaissance, et vous voyez le côté encore très platonicien, c'est la connaissance, la vision qui procure la vie. Hein. Et ça passe comment ça ? Ben, ça passe par des étapes, avec un temps privilégié, le kairos, hein, auquel il fait allusion. Le temps privilégié, où au bout d'un certain nombre d'étapes, pédagogiquement, l'homme est prêt à accueillir le Verbe. Hein. Si le Verbe était venu alors qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas eu Israël, mais il serait venu, personne ne l'aurait reconnu. Hein. Il fallait qu'il y en ait un certain nombre qui soient déjà préparés par les prophéties à reconnaître dans cet homme plus que Dieu, plus qu'un homme. Et puis vous voyez la théologie de l'admirable échange, là, vous savez l'admirable échange dont parle saint Léon au moment de Noël, on l'a déjà dans Irénée, hein, car la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Donc, on a ici un des textes fondateurs de la théologie chrétienne, catholique. Alors, il nous parle aussi du Saint-Esprit. C'est le texte précédent. Quand le Seigneur donnait à ses disciples le pouvoir de faire renaître les hommes en Dieu, il leur disait: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cet esprit, en effet, il avait promis par les prophètes de le répandre dans les derniers temps sur ses serviteurs et ses servantes afin qu'ils prophétisent. Ça, c'est le livre de Malachie, hein, Malachie. Et c'est pourquoi cet esprit est descendu sur le Fils de Dieu devenu homme. Vous voyez, descendu sur le Fils de Dieu devenu homme. Pas d'optionniste. Hein. Les adoptionnistes diraient il est descendu faisant d'un homme le Fils de Dieu. Hein, ou apportant le Fils de Dieu sur l'homme qui était au milieu du Jourdain. Donc là, alors je reprends. Cet esprit est descendu sur le Fils de Dieu devenu homme. Hein.
Devenu homme ou devenu fils d'homme ?
Devenu fils d'homme, oui. Avec lui. Alors regardez, c'est très très beau ça. Avec lui, il s'accoutumait à habiter dans le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans la créature modelée par Dieu. Hein, l'incarnation du Fils va accoutumer l'esprit qui est dans le Fils à s'habituer aux hommes. Cet esprit, avec lui, s'accoutumait à habiter dans le genre humain, à reposer sur les hommes, à résider dans la créature modelée par Dieu. Cet esprit réalisait en eux la volonté du Père et les renouvelait en les faisant passer de leur vétusté à la nouveauté du Christ. Et là, c'est toute la théologie de la grâce. Hein. La grâce, c'est la manière dont l'esprit habite justement dans les créatures pour les transformer d'homme ancien en homme nouveau. Voilà aussi pourquoi le Seigneur avait promis de nous envoyer un défenseur qui nous mettrait en accord avec Dieu. En effet, avec de la farine sèche, on ne peut sans eau faire une seule pâte et un pain unique. De même, nous qui étions nombreux, nous ne pouvions pas non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne porte pas de fruits. Ainsi, nous-mêmes, qui n'étions d'abord que du bois sec, nous n'aurions jamais porté de fruits pour la vie sans la pluie généreuse venue d'en haut. Oui, c'est ça. Voratecelli de super, c'est ça. Car nos corps, par le bain du baptême, ont reçu l'union qui confère l'incorruptibilité, tandis que nos âmes l'ont reçue par l'esprit. Donc, vous voyez, la grande idée d'Irénée,